Il est 7h.
Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille.
Voilà l'annonce que vous étiez des millions à attendre. À partir du 15 décembre, fin du confinement et retour au déplacement, toute liberté, y compris pour les fêtes. Conséquence immédiate, l'explosion des réservations sur le site de la SNCF. Les offices vont pouvoir reprendre dans les lieux de culte dès ce samedi, mais attention, avec 30 personnes maximum. Colère des catholiques, nous appellerons Monseigneur Rouget, l'évêque de Nanterre. Si les magasins ont l'autorisation de rouvrir dès samedi, les restaurants, eux, devront attendre la mi-janvier, les bars encore plus longtemps. Conséquence catastrophique pour les grossistes en boissons. Dans ce journal, nous nous intéresserons à la méthode Darmanin, un ministre de l'Intérieur qui énerve certains, mais gagne en popularité. Et puis si on considère qu'en football, il n'y a que le résultat qui compte, tout va bien pour le PSG qui a battu Leipzig hier soir, mais c'était laborieux.
Juste après ce journal, le chiffre d'affaires des compagnies aériennes s'effondre et le redémarrage sera lent. C'est l'éclairage éco de Nicolas Barré, le regard international de Vincent Hervouette, le rugby en deuil après la mort de Christophe Dominici, le French Flair a perdu son icône, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Comme promis, nous avons désormais un cap pour les jours et les semaines à venir. Emmanuel Macron a fixé son calendrier. Samedi, réouverture des magasins. Le 15 décembre, fin des attestations et donc feu vert au voyage dans toute la France. Preuve que vous étiez nombreux à attendre la nouvelle, les réservations ont grimpé en flèche à la SNCF. Aurélien Fleureau.
Il est 20h07, Emmanuel Macron parle de la deuxième phase à partir du 15 décembre.
Nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille.
Et là, c'est instantané, une minute plus tard, plus 400%. Les ventes frémissaient depuis quelques jours, et là, c'est l'explosion. D'ailleurs, les équipes informatiques ont été renforcées, et dès aujourd'hui, il y aura plus d'agents au guichet des grandes gares. Beaucoup de Français vont aussi opter pour la voiture, les demandes de location augmentent depuis quelques jours, et pour ceux qui pourront partir en vacances un peu plus loin, peut-être pas de plus 400% à l'horizon, mais tout est prêt, explique René-Marc Chicly, président du syndicat des tours opérateurs.
Et je pense que ça va donner un coup de souffle comme ça à une profession qui est quasiment à l'arrêt depuis maintenant pas mal de mois. Il faut aussi considérer que sur les destinations, il y a des protocoles sanitaires, donc normalement, ça devrait réactiver complètement les réservations sur cette période de fin d'année.
Les compagnies aériennes et les aéroports qui misent beaucoup aussi sur la généralisation des tests antigéniques pour voir le trafic aérien reprendre un tout petit peu d'altitude.
Et à la SNCF, on assure que tous les trains grandes lignes devraient bien circuler pour les vacances scolaires. Les préparatifs sont en cours depuis plusieurs semaines. Les attestations restent pour l'instant obligatoires, mais samedi, on pourra se déplacer à 20 km pendant 3 heures. Les commerces rouvrent, idem pour les services à domicile ou les bibliothèques. Autre allègement très attendu.
Dès samedi prochain matin, pour les cultes, les offices seront à nouveau permis dans la stricte limite de 30 personnes.
Monseigneur Mathieu Rouget, bonjour.
Bonjour Mathieu Bayard.
Merci d'être en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes l'évêque de Nanterre. Les messes pourront donc à nouveau être célébrées en public dès ce week-end, mais avec 30 personnes maximum. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ce matin ? Soulagé, déçu ?
Alors, très déterminé à contester cette annonce, parce que 30 personnes, c'est à la fois, comme l'a dit un communiqué de la conférence des évêques hier soir, irrespectueux et incohérent. Irrespectueux parce que dans nos discussions avec les pouvoirs publics, nous étions sur une question de proportion en fonction de la taille des édifices de culte, et incohérent parce que vous voyez bien que 30 personnes dans une immense église, une grande cathédrale, c'est ridicule, alors même que 30 personnes dans une toute petite chapelle, c'est beaucoup trop. Et donc il faut absolument que nous évoluions dans les heures qui viennent pour travailler sur une jauge de proportion, la moitié, le tiers de l'édifice, 4 mètres carrés ou un peu plus. Mais cette annonce de 30, pourquoi 30 plutôt que 20 ou 50, est à la fois irrespectueuse et incohérente.
Donc vous allez contester cette annonce, mais vous envisagez quand même des solutions, par exemple célébrer plusieurs offices par jour ?
Alors oui, mais vous savez, plusieurs offices par jour, dans les grandes paroisses, il y a jusqu'à 1000, 2000 personnes qui viennent à la messe le dimanche. Donc si vous divisez ça par 30, vous voyez, il faudrait célébrer des dizaines et des dizaines de messes pour permettre aux fidèles de pratiquer leur foi. Et donc il y a quelque chose qui ne va pas et qui en plus est vraiment incohérent. Et donc je pense que ça a dû échapper à la préparation soigneuse de cette allocution et qu'il faut avancer. C'est intéressant de voir qu'il y avait depuis quelques jours une sorte de tension entre catholiques, ceux qui se manifestaient, ceux qui n'étaient pas favorables aux manifestations, Et je constate que depuis hier soir, tout le monde est dans quelque sorte réconcilié dans un mélange d'incompréhension et de détermination.
Oui, réconcilié contre cette mesure de 30 personnes maximum par office. Merci Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, en direct dans le journal de 7h d'Europe 1.
Le 15 décembre, nouvelle étape, la fin du confinement, mais le début d'un couvre-feu entre 21h et 7h, sauf pour les soirées de Noël et du Nouvel An. Cinéma, théâtre et musée devraient pouvoir rouvrir.
Les restaurants ont aussi un peu plus de visibilité ce matin, leur échéance c'est le 20 janvier. Mais pour les bars, elle est encore plus lointaine.
Et oui, ils ne lèveront pas le rideau avant le 1er février, selon les informations d'Europe 1, avec des effets collatéraux conséquents, notamment pour les grossistes en boissons. Pierre Herbulot s'est rendu à Morangis, dans l'Essonne, chez le plus gros distributeur en Île-de-France.
Alors là, vous avez des caisses de soda. De l'autre côté du grillage, ici, on a du café en grains. Et tout au fond de l'entrepôt, vous allez trouver tout le stock de bière.
7000 fûts entassés, une petite montagne de bière bloquée depuis la fermeture des bars. Moins de 10 camions sortent de l'entrepôt de Pascal Clément chaque semaine, contre 300 d'habitude.
Un peu de collectivité, des EHPAD et puis des chaînes de boulangerie qui restent ouvertes dans le contexte actuel. Mais sur le mois de novembre, en gros, il va nous rester 2% de notre activité.
Le grossiste emploie 220 salariés, quasiment tous au chômage partiel, ce qui permet au patron de maintenir son entreprise à flot. Il demande un prolongement de cette aide pour toute l'année prochaine.
C'est vraiment indispensable si on veut garder tout le monde à bord dans l'entreprise. Et le deuxième point, dans les mesures gouvernementales qui sont en place, il y a aujourd'hui des mesures sur le fonds de solidarité qui sont certes existantes, mais insuffisantes puisqu'elles sont limitées à 10 000 euros. On a un niveau de charge fixe qui est extrêmement élevé. Vous imaginez bien qu'avec 60 camions sur le parc, des bâtiments de cette taille-là, avec un fonds de solidarité limité à 10 000 euros, on ne va pas très loin.
C'est même une goutte d'eau face à ces 3 millions d'euros de café, de soda, de bière qui prennent la poussière en attendant la réouverture des bars et des restaurants.
La très grosse déception aussi du côté des stations de ski. Impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes, a dit Emmanuel Macron. Pourtant, une concertation venait d'être lancée avec les élus locaux et les professionnels. Une réponse devait être apportée dans une dizaine de jours.
7h07 sur Europe 1. 388 voix pour, 104 contre, 66 abstentions. La loi sécurité globale a été adoptée hier soir à l'Assemblée. Et notamment le fameux article 24 qui prévoit d'interdire de filmer les forces de l'ordre.
40 marcheurs ont fait de la résistance. La plupart se sont abstenus. Gérald Darmanin. Maintenant, crêlez-moi au sein de la majorité avec des déclarations choc. Et pourtant, Adrien Beck, le ministre de l'Intérieur, assume sa méthode.
Ah oui, la méthode du rouleau compresseur, dixit un pilier de la majorité. Islamisme, immigration, insécurité, policiers. Gérald Darmanin est sur tous les sujets. Tout va très vite, trop vite, disent même certains. Sans ces déclarations malheureuses, on n'aurait pas eu de problème avec l'article 24, peste un conseiller de poids. Gérald a bordélisé la majorité, mais il s'en fiche, ajoute un macroniste. Et c'est vrai que ces déclarations, on s'en rappelle, sur le floutage du visage des policiers, les accréditations pour les journalistes en manifestation ont jeté le trouble dans la majorité, même dans une partie du gouvernement. Mais le résultat est là, la loi a quand même été adoptée.
Alors ça coince dans la majorité, Adrien, mais pas du tout dans l'opinion.
Et voilà, et ça, Gérald Darmanin le sait, il est en train de devenir un poids lourd du dispositif macroniste, avec le pari que ses petites fautes de quart n'existeront pas au-delà d'un microcosme. Il est au firmament de sa popularité, il va le rester. Ne voyons pas un problème Darmanin là où il y a un atout Darmanin, défend un conseiller. Atout, car Emmanuel Macron n'a pas choisi de le propulser place Beauvau par hasard. L'électorat présidentiel a glissé vers la droite ces deux dernières années et le chef de l'État l'a théorisé. C'est en soignant cette base qu'il constituera son socle pour 2022.
Adrien Beck, et à 8h15, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, sera l'invité de Sonia Mabrouk.
Aux États-Unis, Joe Biden annonce le retour d'une Amérique prête à guider le monde après les années Trump.
Donald Trump qui, avant de partir, a décidé d'accélérer le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. On en a parlé, la communauté internationale prévoit de débloquer 12 milliards de dollars pour aider le pays à sortir du chaos.
Et oui, un pays qui connaît un regain de violence, 14 morts hier encore dans un attentat au centre du pays. Jean-Sébastien Soldaini.
Le départ des Américains est vécu comme la fin d'un répit avec cette crainte. Le retour d'actes barbares menés par des djihadistes dans la région d'Achine à l'est du pays. L'installation d'une base de l'US Army a mis fin aux décapitations en série, base évacuée récemment. Et Habib a vu des conséquences immédiates lorsque les drones américains ont cessé de survoler la zone.
À peine sont-ils partis de mon secteur que des villages entiers ont été brûlés par Daesh. Certains n'ont plus de maison et dorment dans des tentes. Seuls les drones et les frappes aériennes américaines ne peuvent garantir la sécurité ici tant qu'il y a des terroristes dans le coin, que ce soit les talibans ou l'État islamique d'ailleurs. Ce n'est absolument pas le moment de partir d'Afghanistan.
Pas le moment et surtout pas aussi vite, mais Donald Trump veut un retour intégral des soldats avant Noël, avant de finir son mandat, accentuant encore le sentiment d'abandon.
Jean-Sébastien Soldaini. Petit par la taille, titan sur le terrain, nous ne t'oublierons jamais, repose en paix, cher ami. C'est ainsi que les All Blacks rendent hommage à Christophe Dominici, qui s'est donné la mort hier à 48 ans. Personne n'a oublié son sublime essai face aux All Blacks, justement, lors du Mondial 99.
Et on va en reparler, hommage en longueur, dans l'édito sport de Virginie Fulpin, dans une dizaine de minutes maintenant. Du football à présent, ce fut laborieux, mais Paris fut victorieux. Victoire 1-0 hier soir contre Leipzig au Parc des Princes.
Oui, grâce à un pénalty transformé par Neymar, une rencontre bien fade et un entraîneur bien énervé, Julien Froment.
Un pénalty imaginaire, une seule frappe cadrée en seconde période à la 94e minute de jeu et des stars aux abonnés absents. Hier, c'était un pari gagne petit, mais un pari toujours en vie, même si la manière n'y était pas. L'essentiel est ailleurs pour l'entraîneur Thomas Tuchel, excédé par les questions pointant la prestation sans relief de son équipe.
On a manqué la chance à Leipzig. Aujourd'hui, on a eu un peu de la chance. Je ne vais pas dire pardon pour ça. J'ai l'impression que vous demandez toujours les mêmes choses. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire. Si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Morts. Ils ont donné tous. Donné la cœur, donné tous physiquement. Et je suis fatigué de répondre toujours des attentes de vous comme ça. Fatigué.
Fatigué, usé et encore loin d'être tiré d'affaire puisqu'une nouvelle finale attend le Paris Saint-Germain. Ce sera mercredi prochain à Old Trafford contre Manchester United. Les motifs d'espoir existent pourtant. Le retour de Marco Verratti, Neymar et Mbappé qui seront plus en jambes. Paris a désormais une semaine devant lui. N'en déplaise à Thomas Tuchel pour réapprendre à jouer comme une équipe.
Je vous l'avais dit, un entraîneur très très énervé.
On l'a pas souvent entendu en colère comme ça,
point,
Thomas Tuchel.
Le PSG deuxième de son groupe va affronter en tout cas la semaine prochaine Manchester United. Rennes est en revanche éliminé après sa défaite de 1 contre Chelsea.
Merci beaucoup Hélène Zelani, c'était le journal de 7h sur Europe 1.